Alors, les Maurice Tadlouk, elle est peut-être quand même un peu connue, parce qu'on parle toujours de cet paradoxe, si on peut dire, entre l'écart entre ça qui s'appelle Bitaron, et ça qui s'appelle Istadlout. Donc, la Bitaron, c'est qu'on dit d'un côté que la personne doit avoir confiance en Hachem, qui va lui arranger ses affaires, qui va s'occuper de lui. Hachem, il fait tout. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui s'appelle Istadlout. Istadlout, ça veut dire les Istadel. Donc, on doit, chacun de son côté, de faire ce qu'il peut faire pour avancer vers toi. Donc, en gros, la Torah, elle dit « Uverachticha bechol asher ta'aseh ». C'est-à-dire, Hachem, il fait nous envoyer de la bracha, Hachem, il fait tout faire, mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande quand même de bouger un peu de notre côté. Parce que si nous, de notre côté, on ne fait rien, ça intéresse moins, on va dire, Akadosh Baruch Hu, de nous aider. Et c'est ça qu'il dit ici le Pele Yoetz, « Ishtadlut tzarich me'ot ». Il faut bien, c'est bien nécessaire, c'est très nécessaire même, de faire Ishtadlut, le chol davar tov. Pour chaque bonne chose, il faut qu'on fasse un effort de notre côté. Ishtadlut, je l'aurais traduit effort. Donc il faut qu'on fasse un effort pour chaque bonne chose. Et c'est quoi bonne chose? Ben le mili de alma, ben le mili de shmaya. N'importe si on parle de mili de alma, c'est-à-dire des affaires matérielles, et n'importe si on parle des affaires spirituelles. Chez Afalpi, chez Akombi de Jamaï. Malgré que les Chachamim nous disent Akombi de Jamaï, et c'est sûr que c'est comme ça, que tout est entre les mains de Hachem, Aval, Kvar Milati Amoua, chez les familles, Kar Gazra Chokhmato Idvara. שלפי ההשתדלות והחריצות שיעשו, כן יקום דבר. C'est-à-dire que on voit bien dans la Torah, ça remonte 5763 ans en arrière, c'est-à-dire la première semaine de Briat HaOlam, vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et d'Eve. Une fois que la faute était commise, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, notre arrière-grand-père, « Bezehat apecha, tochal lachem. » Donc, pour manger, tu dois transpirer. Parce que jusqu'à cette faute-là, les quelques heures qui précédaient la faute, Adam, il était installé au Gan Eden avec Chava, les dés étaient assises, et les anges étaient leurs serveurs. Comme ça nous raconte la Gemara, les anges étaient les serveurs au paradis, et c'est eux qui ont servi à manger, à boire, Adam et Chava. À partir des moments où Adam, il a fauté, c'est à lui de se débrouiller pour trouver de la parnassa. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas transpirer. Maintenant, comment on transpire, ça change d'un métier à l'autre. Alors celui qui est machal paysan, il se trouve dans les champs, et le soleil lui tape sur la tête, il transpire son problème. Il est quitte avec ça de la xéra d'Hachem. Un commerçant qui a un magasin climatisé, il ne va pas transpirer dans ce sens simple physique de la transpiration. Mais il va commencer à transpirer quand il reçoit le dernier avertissement d'un huissier ou un lettre recommandée de sa banque dans laquelle on lui dit qu'on lui a coupé le crédit, etc., etc. Ou quand l'URSSAF ou quand la brigade financière vont lui appeler pour une petite enquête. Donc là, il va transpirer de son côté. Chacun, il a sa transpiration. Maintenant, on peut transpirer dans les bons sens et on peut transpirer dans les mauvais sens, c'est-à-dire la personne, il travaille. Si il va se fatiguer un peu pour son travail, une fatigue positive, donc il va vraiment être actif, il va essayer de gagner bien sa vie, de trouver des clients, etc. Le fait qu'il s'est fatigué, il fait sentir acquitté déjà de la xéra d'Hachem, mais si la personne, il est feignant, et il ne fait rien du tout, et il ne bouge pas, alors il n'a pas transpiré. Qu'est-ce qu'il va lui faire à Kadosh Baruch Hu? Il va faire sorte qu'il va transpirer dans le sens plutôt négatif, comme les exemples mauvais qu'il se donnait tout à l'heure, par exemple. C'est pour ça qu'il dit les Pele Yoetz, à Kadosh Baruch Hu, il les gozer, à Kadosh Baruch Hu, il a fait les décrets, sur chacun de nous, que par rapport, en proportion à l'agitabilité, à l'effort qu'on va faire, c'est par rapport à ça qu'Hachem nous enverra hein, la bracha. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas jusqu'où on doit monter avec cette agitabilité, ça veut dire avec cet effort. Est-ce qu'on doit travailler 8 heures par jour, 35 heures par semaine, 10 heures par jour? Est-ce qu'on doit travailler aussi Shabbat? Est-ce qu'on doit travailler aussi le dimanche? Ça, c'est pas défini, même dans les PLOS. Mais, en vérité, chacun il peut le sentir. Je peux dire juste les règles. Les règles, d'après moi, c'est... Chaque ishtadlut, chaque effort qu'il contraduit la Torah, ce n'est pas un effort qu'Akadosh Baruch Hu attend de nos parts. C'est-à-dire qu'ici, le machal, j'ai dit n'importe quoi, travailler Shabbat, bien sûr que c'est n'importe quoi. Parce que c'est évident qu'ici, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire un effort de notre côté, l'effort, ce n'est pas de travailler Shabbat. Et si quelqu'un, pour son travail, il va se trouver dans une situation dans laquelle il va manger quelque chose qui n'est pas caché, le machal, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, en tout cas pour un juif. Quelqu'un qui veut, je sais pas, apprendre à être chef cuisinier. Oui. Il ne peut pas le faire en France. On ne peut pas rentrer ici dans une école dans laquelle on apprend le métier de chef de cuisine. Pourquoi? Parce que dans la gastronomie française, c'est obligatoire qu'ils vont faire cuire ensemble la viande et les laits. Et ça, on n'a pas le droit de faire, même si on ne mange pas, même si on ne goûte pas. C'est le bichoul lui-même qui l'a aussi interdit. D'accord? Donc, même si la personne il est capable de réussir dans ce métier, il a qu'à aller à se chercher une école pareille en Eretz Israël et d'apprendre là-bas ce métier. Donc, la première des règles, c'est qu'il compte la ishtadlut, compte l'effort, il compte traduit les mitzvot de la Torah, c'est sûr qu'on n'est pas censé de les faire. Deuxièmement, il y a quelque chose qui s'appelle minhago shel olam. Minhago shel olam, ça veut dire. Il y a des horaires, par exemple, dans lesquels le magasin doit être ouvert. Alors, une pharmacie doit être ouverte X heures par jour. Je ne sais pas exactement combien. Alors, une personne qui possède une pharmacie, qui a décidé que son travail, c'est la pharmacie, il ne peut pas se dire, moi, je vais ouvrir 10 heures par jour. Est-ce que j'ai compté la Kadosh Baruch Hu qui m'enverra le nombre de clients qu'il faut durant ces 10 heures par jour? Vous comprenez? Parce que les 10 heures par jour... Les 10 heures par jour, ce n'est pas minhago shel olam. Ce n'est pas l'attitude des gens normaux qui font partie de ce métier qui s'appelle pharmacien. Donc, chacun il doit procéder dans son métier de faire les choses qui sont derrière à olam. Maintenant, on ne lui demande pas de faire les gardes systématiquement, d'être tout le temps ouvert le dimanche, de rester jusqu'à 10 heures du matin. Tout ça, ça ne fait pas partie des minhago shel olam. Donc, si la personne il respecte les mitzvot de la Torah d'un côté, il respecte de l'autre côté ça qui s'appelle minhago shel olam, alors à mon avis il a fait l'ishtadlut bien comme il faut, et le reste des temps il vaut mieux qu'il les consacre à sa famille, qu'il les consacre à l'étude, aux zmanim de tfilot, vechenala, vechenala. Mais une personne qui n'a pas des mérites extraordinaires et il pense qu'Akadosh Baruch Hu il va lui envoyer la parnassa sans faire quoi qu'il soit, il se trompe. Bien sûr que ça existe, bien sûr que ça peut exister. Mais pour arriver à cela, il faut bien vivre dans un niveau spirituel très très élevé. Et nous, on n'a pas toujours cet niveau. Je dirais plutôt, on n'a presque jamais cet niveau. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre à ce jour des événements. Nahon, qui des très grands tzadikim, ils ont vécu comme ça. Et ça a bien marché pour eux. Mais même chez ces tzadikim, c'était toujours limite. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il met même les tzadikim qui ont ce niveau à l'épreuve. Ça veut dire qu'il tire les cordes jusqu'à presque au bout. Je vous ai raconté il y a quelques années l'histoire de Rebbe Reb Zusche. Rebbe Reb Zusche, le frère de Rabbi Elimelech de Lijensk. Je ne sais pas en vérité s'il faut dire qu'il est le frère de Rabbi Elimelech ou qu'il est Rabbi Elimelech de Lijensk qui était son frère à lui. Ça, c'est toujours une question politique. C'est comme qu'on décide qui était le frère de qui. C'est-à-dire qui est le A et qui est le B. באמת les deux étaient des très grandes personnes. Alors d'un côté, Rabbi Rav Zusha, il était très méticuleux par rapport à un fait qui, chaque fois quand il lui arrivait un dégât quelconque, n'importe lequel, il a pris ça avec beaucoup de sérieux. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui s'il y a quelque chose qui casse à la maison, par exemple. Bon, si c'est des verres, c'est tout de suite nos altories, pas de problème. Mais si c'est autre chose qui se casse, et s'il y a un objet qui est perdu, alors ils prennent ça comme un signe, une achamaïm, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est-à-dire qu'il doit faire tchouva, tout simplement. Parce que s'il était parfait, il ne devait pas subir ces dégâts matériels. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se perd ou qui se casse, il se met tout de suite à faire vidouille et faire des tuyautes et de faire tchouva. Et ça se raconte qu'il y avait un jour un de ses chassidim, un de ses disciples, qui était connu par sa particularité, c'est qu'il est toujours besimcha. C'est bien mettre une très grande madriga. C'est pas évident d'être tout le temps besimcha. Même quand tout va bien, c'est difficile d'être tout le temps besimcha, et kol sheken, si des fois ça va pas, chas v'shalom. En tout cas, cette personne, il est très connu en ayant cette spécialité d'être tout le temps besimcha. Alors, à une période, je ne sais pas pourquoi, il est devenu très pauvre, l'autre, le chassid. Et il s'est trouvé obligé de vendre toutes ses affaires. C'est-à-dire, la maison, il s'est vidée. Il devait vendre même ses meubles pour s'acheter de la nourriture. Et le seul objet qui lui reste encore, c'était son talit et ses tefillin. Un jour, il a décidé qu'il allait aller voir les rabbis. Je ne sais pas s'il est allé voir les rabbis parce qu'il avait des problèmes ou si il avait envie. En tout cas, il est allé voir son rab. Et sur la route, on lui a volé les talit et les tefillin. Alors, imaginez-vous bien un peu ce qu'il devait sentir quand ça lui est arrivé. Et quand même, l'histoire elle raconte qu'il a resté besimcha. Et il est arrivé chez les raves et malgré tout, il a rien montré. Par contre, il a raconté à ses amis, vous savez, on m'a volé mes talit et tefillin et il a cherché quelqu'un qui va lui prêter pour faire la tefila. Après, il a rentré chez les raves pour lui dire shalom aleichem et les raves ne voulaient pas lui serrer la main, ils ne voulaient pas lui dire shalom aleichem. Il n'a pas compris. Et le rabbi lui a dit, parce que je ne comprends pas, tu vois bien que tu as déjà perdu tout ce qui est. Et maintenant, on t'a volé même, t'as dit, t'as fini, c'est vrai que tu es joyeux, tu es besimcha, c'est bien beau d'être besimcha, mais si tu vois, on te montre des signes que ça ne va pas, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content de toi, alors ça devait te faire quelque chose, il devait bouger. Donc, suite à cela, bien sûr, le chassid, il a fait tchouva bien comme il faut. Il s'est représenté devant les raves, et quand les raves, il a remarqué qu'il a fait tchouva, c'est là qu'il a donné un shalom à l'Echem. Et la fin de l'histoire, évidemment, c'est qu'il a retrouvé son talit et tefillin. Bref, c'est pas ça les points de Peleoetz. Le point de Peleoetz, c'est qu'il faut faire Ishtadlut. Donc, d'après cet Rabbi Reb Zusha, il n'avait pas l'habitude de faire Ishtadlut. Il était toute la journée dans la choule. Et chaque fois, quand il avait faim, il a l'habitude de lever ses yeux vers là-haut et de dire « Ribono shel olam, Zusha, il a faim. » Maintenant, en vérité, il a un chamache. Et quand ce chamache, il entend la phrase fameuse « Zusha, il a faim », il va à la maison, il dit à la rabbinite que le rabbi il a dit qu'il a faim, le rabbin il envoie avec lui quelque chose à manger. Bon, c'est un bon système, il n'y a rien à dire. Alors un jour, le chamash il s'est mis à réfléchir, il a dit, mais c'est quoi cette cirque? Il lève ses yeux vers Hachem, il dit, Zusha il a faim, mais il sait très bien que moi je suis derrière. Et qu'est-ce qu'il va faire si moi je me mets en grève? Alors il a pensé ça. Et il s'est dit, j'essaye, justement. Je vais mettre en grève. Alors, le rabbi, il a terminé sa prière le matin. Il a l'habitude quand même de manger. Alors il lève ses yeux vers là-haut et dit Zoucha, il est fin. Et les jamaches, il est sourd. Il n'a rien entendu. Bon, ça, des fois, ça peut sauter, les petits déjeuners, c'est pas... Ça nous arrive tous, de temps en temps. Midi, 13h, il commence à devenir un pétard. Les rabbis se lèvent ses yeux vers là-haut, il a dit, Ribbono shel Olam, Zoucha, il est... Et les chamaches, ils jouent les sourds. Il n'a rien entendu. Et il attend de voir qu'est-ce qu'il va faire le rabbi maintenant. Mais le rabbi, Bémet, il n'a rien fait. Et on arrive à 8h du soir, Mincha, Arvit. Et le rabbi, il sent qu'il y a un vrai problème quand même, mais il fait comme toujours. Il lève ses yeux vers là-haut et dit bon, sur l'homme, ce chat, il attend. Et les chamaches derrière, elles s'éclatent de rire. Vous savez, les chamachim, c'est une peuple pour soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils commencent tous bien. Mais il y a un moment qu'ils pourrissent tous. Les raves, il était tellement fort dans sa position qu'il n'a même pas tourné la tête pour voir si le chamach il est là, ou s'il est mort, ou s'il est malade. Il ne regarde même pas. À peine il a terminé la phrase, la porte elle s'ouvre. Et il y a quelques personnes qui rentrent avec des grands paniers, avec une table, avec des chaises. Et ils commencent à dresser la table avec les chaises, avec des nappes, avec des jolis kélim, etc., etc. Mais qui sont un repas royal, assez pour 10 personnes. Et ensuite, un de ces gens qui ont amené les repas qu'ils ont fait le service, il va chez le rabbi, il a dit « Rabbi, excusez-nous, est-ce que ça ne vous dérange pas, on a amené ici un soldat pour vous, ça vous a été envoyé par monsieur Antel, et qui me demande si vous pouvez avoir la gentillesse de manger, c'est très très important pour lui. » Le rabbi ne pose pas de questions, il a connu la personne, c'est une personne cachère, on fait manger chez lui, il fait netilat yadayim, il se met à manger, il ne s'étonne pas du tout. Mais les chamaches, il est fou. Donc il ne pouvait pas se retenir, il a couru vite fait chez la personne chez qui ça a été envoyé, il frappe sur la porte, l'autre il sort, il dit excusez-moi, je suis obligé de vous demander quelque chose, mais soyez gentil, expliquez-moi ce qui s'est passé. L'autre il dit qu'est-ce qu'il y a, il a dit vous savez, moi je suis les chamaches des raves. Et normalement, c'est moi qui lui sers des repas, mais ce soir, il y a un repas qui est parvenu de chez vous, et je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il n'y avait rien raconté. Alors l'autre, il lui dit, je vais vous raconter, pourquoi pas. Voilà, il y a mon fils qui est malade déjà depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, ce matin, il y avait le médecin, et le médecin, il a... Regardez, il a dit qu'il malheureusement il pense que c'est la fin. Donc quand j'ai entendu ça, je me mis à pleurer. Et j'ai tellement pleuré que je m'endormis. Et en dormant, il y a mon père qui est décédé déjà, qui vient à mon rêve. Et il m'a dit, mon fils, si tu veux sauver la vie de ta fille, de ton fils, envoie tout de suite une souda chez les raves au Beit HaMidrash. Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'un Talmid Chacham, quand il mange d'un repas qu'on lui a offert, c'est comme un korban qui monte sur le Mizbeach, c'est comme un sacrifice qui est amené au Beit HaMikdash, et donc c'est comme qu'il t'est amené un sacrifice, et donc ça va faire de la capara, ça va pardonner la faute qu'il a entraîné la maladie de ton fils. Il a terminé à me dire ça qu'il m'a dit, je me réveille, et j'ai lancé tout de suite la cuisine pour le faire le plus vite possible, et j'ai envoyé les repas au Beit HaMidrash, et déjà depuis qu'ils ont commencé à cuisiner les repas, l'état de mon fils elle s'est amélioré, et là, Baruch HaShem, il y a une demi-heure, et ils se sont beaucoup, beaucoup meilleurs. C'était justement la demi-heure qu'il avait il a commencé à manger cet repas. Donc, bien sûr qu'il est chamache, il a eu très, très peur. Et il a dit, oui, je vais vous raconter la vérité, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, et il a raconté justement toute cette histoire. comment est-ce qu'il était méchant, il a fait semblant qu'il n'entend pas la démon des rabes, etc., etc. Et voilà. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce qu'il y a un niveau comme ça des tzadikim exceptionnels qui peuvent compter sur l'intervention de la part d'Akadosh Baruch Hu qui l'envoie une neshama de Aro pour dire à Otip qu'il faut que son fils va guérir, etc. Mais je ne crois pas que nous, à notre niveau, on a le droit de s'attendre aux choses pareilles. Malgré cela, je vais vous dire quand même que je suis convaincu et j'y crois de tout cœur que chacun de nous, il a des miracles de ces jours, mais ils sont un peu plus cachés. Vous voyez, je vais raconter quelque chose que j'ai entendu hier. J'entends en vérité tous les jours des choses pareilles. Mais hier, il y a un ami qui, malheureusement, ses affaires ne vont pas si bien que ça. Alors, il m'a parlé il y a quelques jours, il m'a dit qu'il a envie de déposer le bilan. Alors, moi, je ne suis pas un grand chassid des dépôts de bilan. Donc, je lui ai dit, écoute, maintenant on est avant Rosh Hashanah. Quoi qu'il soit, je pense qu'il ne faut pas prendre des décisions sauvages comme ça avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est les jours dans lesquels on fixe ce qui va se passer à chacun de nous pour la parnassa, pour la santé, pour tout. Alors, attends d'abord Rosh Hashanah qu'il faut, et après on verra bien. Il faut patienter. Alors hier soir, je lui revois, elle me raconte qu'est-ce qui lui est arrivé hier. Pas hier, avant-hier, la nuit. C'est-à-dire après qu'il en a parlé, hein, il est rentré à la maison, et il reçoit une visite. Et c'est la visite de qui? C'est une personne qui a 7 ans, il avait une affaire aussi, et il a acheté chez mon ami de la marchandise, et après que Minaga Olam, il a déposé le bilan, et il n'a pas payé son dette jusqu'à aujourd'hui. Mais il est en dépôt de bilan jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'a plus son affaire, il n'a plus rien du tout. Mais, entre-temps, il s'est associé avec quelqu'un qui est dans une branche tout à fait différente. Et il a gagné beaucoup d'argent. Alors, juste avant-hier, ça lui a monté dans la tête qu'il doit de l'argent à mon ami. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde d'affaires contre quelqu'un. Il dépose des bilans vraiment, ça lui paraît pas du tout utile de payer ses anciennes dettes. Surtout s'il y a 7 ans déjà qui sont passés, surtout que mon ami ne lui a rien réclamé, parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Il a déposé. Alors avant-hier, il lui frappe sur la porte, il lui dit, tu te rappelles, il y a 7 ans, j'ai acheté de la marchandise, je t'ai pas payé, donc j'aimerais bien te rendre cet argent-là. Il lui a rendu 60 000 euros en liquide. C'est quand même de l'argent, ça n'a rien à dire. C'est quand même de l'argent. Donc je ne dis pas que ça a résolu tous ces problèmes. En tout cas, c'est un signe d'Ao qui, à Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Kadosh Baruch Hu, Béhémet, il n'oublie personne. Et l'argent, il n'est pas maîtrisable par nous. C'est comme nous qui en maîtrise. J'ai lu une petite histoire de Hafetz Chaim, je l'ai raconté hier aux gens, alors je vais vous raconter aussi, peut-être ça va vous plaire aussi. Hafetz Chaim, il était un jour en voyage. Alors cette histoire, elle est racontée par une personne qui était à l'époque un tout petit enfant. Et il avait l'habitude de raconter cette histoire jusqu'à sa vieillesse. Il a dit que l'histoire l'a tellement marqué, que ça a carrément lui donné une autre optique sur la question d'argent. Bon, il ne faut pas cacher ça, l'argent c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté comme ça, que le Hafetz Chaim est arrivé dans la ville. Il est arrivé en chariot, bien sûr. Et toute la ville est venue pour faire l'accueil des rabes. Ce qu'il ne veut pas voir le Hafetz Chaim, qui est déjà très connu à l'époque. Donc, en descendant dans des chariots, il y avait beaucoup de monde. Donc, les gens, ils ont poussé, je ne sais pas quoi. Le Hafetz Chaim était petit détail, vous savez. Pas un costaud. Donc tout le monde ils ont poussé, quelqu'un il a poussé aussi le Hafetz Chaim, sans faire exprès bien sûr. Et le Hafetz Chaim, il a bougé pour ne pas être trop touché. Alors il y a des pièces qui ont tombé de sa poche. Quelques petites pièces de monnaie qu'il avait dans la poche, ils ont tombé par terre. Alors les gens qui étaient à côté, ils ont vu ça. Hein. Il s'est contenté, bien sûr, de se pencher pour ramasser l'argent et de le remettre à la main de Hafetz Chaim. Comme ça, on fait un mitzvah, Shabbat Aveda, on aide les raves, on a le sroud de mettre quelque chose dans la main des raves, pourquoi pas. Alors, Alors cet enfant qui il était à l'époque enfant qui raconte cette histoire, il est décoté et il regarde parce que les gens ramassent l'argent. Et à un moment, il a remarqué qu'il est cocher, qui est un goy, il ramasse aussi des pièces, mais il les met dans sa poche à lui. Donc il a dit au Rav, c'est un enfant, il s'est fait taire, alors il a dit au Rav, mais Rabbi, regardez, les cochers, ils prennent votre argent. Le Rav lui a regardé, il a dit, mon fils, il ne faut pas dire ça. L'argent, il n'est pas à moi. Le prophète, il dit, « Li akesef veli azahav neum hachem tzvakot. » Kadosh Baruch Hu, il dit, l'argent, il est à moi, l'or, il est à moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne l'or et l'argent au titre gardien. Si on sait le garder bien comme il faut, ça veut dire de se servir bien comme il faut, il prolonge la durée de la période des gardes. Et s'il voit qu'on se comporte mal avec l'argent, il nous l'enlève. C'est pas compliqué. Mais l'argent, il n'est pas à moi. Si les cochers, ils le prennent, ils le prennent d'un coup d'un coup. Moi, j'ai aucun problème avec lui. Alors, cet enfant, il a dit que, l'enfant adulte, il a dit que ce mot de Hafet Sraïm nous a planté dans la tête à vie. Léa Kesef et Léa Zav, mon machin. Il ne faut jamais prendre trop en sérieux les histoires matérielles, parce que de toute façon, les Kesef, les Zav, ça appartient à Hachem. Quand Hachem il veut, j'ai Kesef et Zav. Quand Hachem il veut pas, j'ai pas Kesef et Zav. Et ça ne dépend pas vraiment de moi. C'est ça qu'il a dit, le Yoet, à Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire Ishtadnout, ça veut dire de faire l'effort, mais ça ne veut dire pas que c'est l'effort qui l'amène Bémet toujours l'argent. Vous comprenez? Et ça ne veut dire pas que si on ne va pas faire l'effort de tout, on n'aura pas de l'argent. Il y a du tout. Sinon, comme nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de nous, et comme quand même il y a les décrets qui s'appellent Bezerat Apecha Tochal Lachem, ça veut dire qu'on est vraiment censé de se fatiguer quand même pour avoir avec quoi manger. Alors une personne, il n'a pas le droit de dire, non, non, moi je suis au Madriga des rabbis qui veut lever ses yeux vers là-haut et de dire, bon, c'est l'olam, Zusha, il a faim. Et ça y est. Ce n'est pas évident, sinon on a les mêmes mérites, sinon on a les mêmes zroutes. Donc c'est pour ça qu'on doit se fatiguer quand même, on doit faire quelque chose, et quelque chose, c'est comme je dis, à condition que ce n'est pas contre la loi de la Torah, et à condition qu'on ne fait pas au-dessus des minhagos, olam, des comportements habituels des gens dans ce métier dans lequel je travaille. Et bien maintenant, la Péléot, il dit, et jusqu'à là, on a parlé d'Ishtadlout en gros, et maintenant, ou biyoter tzarich Ishtadlout, v'charitzut, ou zrizut rav, et surtout, il faut faire des gros efforts, להציל לקוחים למוות, בטרם יצא הקצף, חמת מלך מלאכי מוות, רחמנא ליצלן. Surtout, il faut faire un gros effort quand il s'agit d'une question d'Hatzalat Nefashot, c'est-à-dire quand il s'agit d'une question d'une personne qui est en danger. וכמה פעמים ראינו ושמענו מעשים. Quelquefois, on a vu, on a entendu des histoires. שהיו יכולים להציל לקוחים למוות בדבר כאן. כי יווה דה ז'ן, כי תפריז, איסטי קונדני אמור, הוא פורה לשווה, אבק אמפה דפו, אבק אקסוד דלג'ה, ומתוך התרשדות, אפס כלג'ון איזון נגליג'ה, שאומרים אין פחד, אין פחד, אידיז, יפה הקרנד, יפה הקרנד, וחוששים להוציא ממון, לג'ון אסי דנפה דפונסי דלארג'ון, אבידמון. וסוף שנתגדלה המדורה והשלבת עולה, לפועי אל מונט, לפלם אל מונט, עד שנצרכים לעשות פזר גדול כדי להציל. אופן, איפה פלוס כסה. זאת אומרת, לה איפה ברמזים, ובואי, היא דיפה דשוס קלר. אז כי איפה דשוס, כי תטרף פרקום על אפוק, סרטו כי לה וקולי, אונטו כי, כי יווה דז'ון, כי תטרפה פר לסיסטם דלג'יסטיס, כי תפתו יור טרג'יסט, דפו הנקונדנה דז'ון אמור, et les moyens pour les sauver, c'était de mettre des enveloppes à celui qu'il faut. Et quand c'est fait tout de suite, alors là, ça coûte moins cher. Mais si les gens ils disent, non, on va attendre, quand le juge Go il va voir qu'on ne lui donne pas de l'argent, peut-être il va lui libérer tout seul. Mais c'est une erreur, dit le Pélévetz, parce que là, le contraire, plus qu'il le temps passe, plus il y a l'appétit de l'autre qui va grandir, et plus il va devenir aussi têtu de son côté, parce qu'il voit que nous, on essaye de s'entêter de notre côté. Donc, si on ne fait pas tout de suite ça qu'il faut faire, alors il y a le temps qui passe, et l'ego, il risque de nous demander beaucoup plus, et peut-être des fois, il sera tellement en colère qu'il ne va même pas accepter ensuite l'argent, parce qu'il y a trop de temps qu'il a passé, les choses ils sont officialisées, alors ils vont, chas v'shalom, vraiment exécuter. Ve'alvay sh'yukhlu la'tzi. Lachem, chiyuv ha'ramya al kol ha'am asher bashar. C'est pour ça, dit le Pele Yoetz, tous les peuples qui se trouvent dans la ville, ou bifrat ha'anashim, et surtout les gens asher yesh la'em yad v'shem tov ben asarim. C'est qu'ils ont des bons relations, des bons rapports avec les princes, avec les hommes de pouvoir, qui peuvent vraiment faire quelque chose, le maher ou l'atzil est un enfant miyadam, de faire le plus vite possible le nécessaire pour sauver la personne qui l'a tombé entre les mains de ces goyim-là. Sha'arim nimshelu ke tom ichmar. Tom ichmar, ça veut dire un piège. Ma tom ichmar, shehu ha-metsuda, kevan shenichnas sham en merachamim alav, kacha akum en merachamim. Quand il y a un juif qui tombe entre les mains des goyim, ils ne vont pas avoir de la rahmanout sur lui, et donc si on ne peut pas compter sur leur miséricorde, ça veut dire qu'on doit faire de notre côté le maximum pour lui sauver le plus vite possible. Et plus que le temps y passe, de moins, on aura les moyens de le sauver. וידוע גודל מצוות הצלת נפשות. זה קוניס כתל פואן גרון דלי למצווה וסובה וזן. שניתנה כל התורה לדחות על פיקוח נפש. עונה לדרוע דרופוסה, נמפורט כל דין דל התורה, כל לועד לתורה, דבון, זה כספל פיקוח נפש, זה דיר, קוטלבי דקלקר, סומי, אונדונג'ה. וכל שכן וקל וחומר, et par plus forte raison, si j'ai le droit de transgresser Shabbat, si j'ai le droit de transgresser Kippour, pour sauver la vie de quelqu'un, וכל שכן וקל וחומר, et par plus forte raison, שחייבים כל ישראל לפזר כל ממונם, même de dépenser tout leur argent, ולמכור אפילו הספרי תורות, et de vendre même tous les ספר תורה qu'il y a dans la choule, et de rester sans ספר תורה, בשביל הצלת נפש. ואמרו אבותינו ז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. Quand on sauve la vie d'un seul juif, c'est comme on a sauvé le monde entier. La preuve, כי אבינו הראשון אחד היה אברהם, ויצאו ממנו רבבות אלפי ישראל. Notre premier ancêtre, c'était Abraham Avinu, un seul personne. Et voilà, on est tous là, parce qu'on est ses descendants. C'est-à-dire que d'un seul personne, il y a un peuple entier qui peut sortir. ומאדם הראשון יצא כל העולם. האדם הראשון עושה, לתסל, דלוי סל, אלה מונדונטיאל, סימיליאר כאלה פרסון. לכן חיוב הרמיה לכל דבר טוב, למהר להשתדף, וכל אשר בכוחו יהיה עושה. דונק זה פורסה, פורסק בונשו, זה יפוס את הפשע, דפר סקיון פטר, אפר פריפורט רזון כיפול פר, קונטיל סג'י דה הצלת נפשות וסובל לעם וכלכר. מוברידי, אונפונס, כסקיון ענו, אפר הצלת נפשות, אוז'ורדוי, הטרפי דקה, ז'ויב כיסטרוב, אונדונג'ה דמור, פריזון אגויים. דמור איפה סבור כספברי, מם מלרוזמו איסי, אונפונס, יפה לנטון, יווה סרטן רבנים כתה פריזוניה, או גר דבי, הכל דז אפר פיננסייר כתה פאגלת, ומדיר. Et il y a un de ces rabbins-là qui, sous la pression de toutes ces enquêtes qu'ils ont faites, il a décédé malheureusement. Alors c'est sûr que celui qui pouvait faire quelque chose pour les libérer, il ne l'a pas fait. Il est fautif. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait grand-chose à faire. Mais moi, je peux vous raconter que quand cette série des arrestations a commencé, il y a quelqu'un qui a pensé qu'il serait faire quelque chose, il est venu me voir et il m'a dit que si on trouve 25 000 $, 25 000 €, on pourra peut-être libérer c'était encore la première personne qui était arrêtée. Et on a trouvé le jour même les 25 000 dollars. Malheureusement, ça n'a pas aidé. Mais c'est pour vous dire que moi, je crois que même aujourd'hui, ça peut exister. Mais on va dire à un autre niveau simple, il faut savoir que des fois, il y a des gens malades qui ont besoin de temps en temps qu'on va leur rendre visite pour voir s'il ne manque pas la nourriture, si leur maison est assez bien nettoyée. Et si on ne fait pas le nécessaire pour eux, même sur le niveau le plus simple, ils risquent de mourir plus vite parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. C'est clair. Regardez l'histoire de... Il y a une grande mahloké, il y a une grande discussion. Est-ce qu'il y avait 10 000 morts, 11 000 morts, 11 000, 5, 13 000, 15 000? Je ne sais pas. C'est pas le point n'est pas de savoir s'il y a 10 000, 11 000 ou 15 000. Ce n'est pas ça la question. Mais on voit bien que l'année 2003, comme le Guillaume appelle ça, ouais, soi-disant on est super modernisé dans un pays occidental, un pays qui est très fier d'elle parce qu'elle est très sophistiquée, etc., etc., il peut y arriver qu'il y a une catastrophe naturelle, comme ils appellent ça, qui est quand même maîtrisable, les pays, l'État, elle est incapable de faire le nécessaire pour que ces pauvres gens ne vont pas mourir parce qu'il fait un peu trop chaud. C'est incroyable. C'est incroyable. Si je dirais ça moi, il y a 6 mois, je dirais ça devant les gens, vous savez, moi je pense qu'en été, il y aura 15 000 personnes qui vont mourir à cause de la canicule. Hein. Celui qui dirait ça il y a 6 mois, les gens vont le regarder comme un fou. On n'est quand même pas en Afrique, non? On n'est quand même pas des primitifs. On sait qu'il faut boire X litres par jour pour résister. Puisqu'ici, on a appris que même dans les institutions de gériatrie où le personnel il est censé de savoir exactement ce qu'il faut faire, ou bien les gens étaient aux vacances, ou bien ils sont fichés carrément. Ils n'ont rien fait pour ça. C'est-à-dire, je vais dire avec ça que même à notre niveau, quand il y a une situation pareille, on doit tout de suite penser sur des gens âgés de notre famille et d'aller voir si on peut faire quelque chose pour eux, s'il faut faire quelque chose pour eux. C'est clair qu'il y avait des milliers de personnes qui sont décédées parce que même leurs proches des familles, ils n'ont pas fait le nécessaire pour eux. C'est sûr et certain. C'est incroyable, mais vrai. Donc, c'est ça qu'il parle ici, les Pélioès, il dit qu'il faut faire Ishtadlut depuis quoi Khnefesh. Après une débrise, il a reçu un jour une personne qui lui a raconté que son fils, il était appelé à l'armée russe. Alors après il lui a dit qu'il faut qu'il prenne le train et qu'il va à Varsovie. Et à Varsovie, il y a quelqu'un qui a des bons contacts avec les pouvoirs de l'armée, et peut-être il pourra faire quelque chose pour libérer son fils. L'histoire s'est passée, c'était vendredi après-midi. Alors la personne, il a remercié les rabbins de lui donner cette information. Il a dit qu'il va aller dimanche. Après, il a dit non, tout de suite. Maintenant. L'autre, il commence à bégayer, il dit, mais on est juste avant Shabbat. Alors, je vais me trouver en train Shabbat. Il a dit, Raphaël, mais je sais très bien qu'il y a Shabbat. Je connais ça. Et il a dit l'autre, alors ça veut dire quoi? Alors, Raphaël lui dit, tu comprends pas, c'est très simple. Voilà. Ton fils, il soit pris à l'armée. Imagine-toi qu'il est ici, quelques temps, il y a une guerre qui se déclenche. Et imagine-toi qu'on va mettre ton fils devant. Et imagine-toi qui sera tué. Ça peut arriver, non? C'est comme ça toujours, quand il y a des guerres, il y a des morts. Alors, imagine-toi que ça arrive. Donc, on est devant une question de pikuach nefesh. Alors, si tu vas aller tout de suite, même si c'est Shabbat, et tu vas parler avec cette personne, et il va faire quelque chose, et il arrivera peut-être à libérer ton fils de l'armée, et c'est toi qui t'as sauvé sa vie. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors bien sûr que l'autre il a pris le train Shabbat. Mais nous, on ne raisonne pas comme ça. On n'a pas du tout les mêmes optiques. Le Rav de Brisk, le fils de Rav Chaim, il a expliqué une fois comme ça. Quelqu'un il a venu lui demander, parce que Rav Chaim il était très, je ne vais pas dire léger. Quand on est venu lui demander pour des malades, est-ce qu'il faut qu'il mange Kippour ou Tisha B'Av, c'était presque toujours oui, il faut qu'il mange. Alors quelqu'un est allé voir les fils de Rav Chaim, le Rav de Brisk. Il a dit, je ne comprends pas, ton père il est connu comme quelqu'un qui est toujours mahmir, c'est-à-dire qu'il est toujours plutôt sévère. Et comment ça se fait que quand on arrive à une question tellement importante de oui ou non manger Kippour, il est tellement léger. Il dit toujours presque oui. Qu'est-ce qui change dans sa tête quand il arrive à Kippour? Est-ce que pour lui Kippour c'est rien? Pour n'importe quel mitzvah, il va faire un effort immense pour ne pas pour être sûr et certain qu'il a fait la mitzvah bien comme il faut. Je vous ai raconté déjà beaucoup des histoires de Rav Chaim. Vous savez qu'il Soukot, que machal, il avait peut-être un cinquantaine d'étrogues. Pour être sûr qu'il a fait la mitzvah des trogues, il s'est acheté 50 des trogues, qui étaient chacun des beaux et chers, etc. Ainsi, pour chaque mitzvah, c'était aller jusqu'au bout. Et quand ça arrive à Kippour, il n'y a pas de problème. Il a dit, les raves, tu ne comprends pas mon père. Mon père, il n'est jamais léger. Le contraire, il est très sévère. Pour lui, la question de Pikouach Nefesh, il le prenne avec beaucoup de sérieux. Comprenez? Ce n'est pas Yom Kippour qui est à la légère. C'est le Pikouach Nefesh qui est à la sévérité. Pour lui, le Mahmir be mitzvah Pikouach Nefesh. L'homme est qu'il be Yom Kippour, il n'est pas léger par rapport à Yom Kippour, et là, il est Mahmir be mitzvah Pikouach Nefesh. L'achène, dit le Pele Yoetz, Chiyuv Aramia le Chol Davar Tov, le Maher le Ishtadel, le Chol Asher be Kochol Yose. Donc toujours, quand on a une bonne chose devant nous, quand on a une bonne affaire devant nous, une affaire de mitzvah, une affaire de chesed, il faut se dépêcher pour faire. Et de faire le maximum qu'on peut faire pour que ça se réalise. Mais il faut savoir qu'on ne peut jamais garantir le résultat. C'est pour ça, Hachem, à Tov Ben Avouyaser. Kadosh Baruch Hu, de toute façon, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va se faire à la fin. Ça ne dépend plus de nous, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est de faire. Donc nous, on doit réagir. Ça a marché, ça a marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Des fois, on aide justement un malade. On fait pour lui un gros effort. Et malheureusement, enfin, il ne va pas résister. Alors est-ce qu'on doit sentir que tout ce qu'on a fait c'était pour rien? Ça c'était notre devoir de faire. Mais en fin de compte c'est qui le décide? C'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. Et lui il s'est mis avec nous, qu'est-ce qui doit se passer? Nous de notre côté on doit faire le nécessaire et après Akadosh Baruch Hu il fait ce qu'il sait qu'il a à faire. Vekovea sachar arbel amishtadel ke ilu gomer vose. C'est-à-dire, quand on s'occupait, le machal des picouach nefesh de quelqu'un, même si on n'a pas réussi à la fin, que la personne il a décédé, à Kadosh Baruch Hu, il va donner la récompense à celui qui a travaillé là-dessus, qu'il ou comme qu'il est arrivé, oui, à sauver la vie de la personne. Pourquoi? Parce que la personne, de son côté, il a tout fait bien comme il faut, correctement. Alors après, c'est plus son problème. On passe au chapitre Anaa. Anaa veut dire plaisir. Amusement. Katfou Chachmé Moussar. C'est écrit dans les livres des sages Moussar, des sages morales. C'est marqué dans le Chovot al-Vavot, le passage qui va amener là. She'aolam azé im aolam abba. Ces mondes-ci et les mondes futurs, hem tsarot zu lezu. Donc les deux mondes, monde avec ES à la fin, ils sont tsarot. Il y a une rivalité entre Olam Hazeh et Olam Haba. Le kol zman que Adam olech achar ta'anugei ve'evlei haolam ve'nehene min haolam hazeh. Tant que la personne il est dans un état dans lequel il cherche tout le temps à s'amuser, à profiter de la vie, à se faire plaisir. Donc, ça prouve quoi? Hussiman she'adayin hu mibachus. Ça signifie qu'il est encore dehors. Il n'est pas dans les coups. Il n'est pas dans quel coup? Il n'est pas dans les vrais coups. Adayin hu mibachus mi la'asig orchot chayim. Kedei lizkot le'enot miziv ashkina. Une personne qui se cherche quel est le plaisir de se mentir, il n'est pas possible qu'en même temps il va vraiment travailler pour s'approcher vers Olam Haba, vers Akadosh Baruch Hu. Le langage de Chovot HaLevavot est Lo Yishkon Olam Hazeh V'Olam Haba B'Levaman. Ça veut dire, il n'y a pas dans le cœur de la personne à cette place et pour Olam Hazeh et pour Olam Haba. Donc, un des deux, il faut qu'il soit en minorité, on va dire. D'accord? Donc c'est ou bien Olam Haba qui est en minorité, ou bien Olam Hazeh qui est en minorité. Je ne dis pas qu'on peut vivre ici sur Terre et de jamais profiter, ça c'est pas possible. Mais ça dépend si la personne il est Olech Achartam Yedle Olam. C'est ça qu'il a dit les Peléretz, Olech. Ça veut dire où est sa direction, vers où il marche, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qui lui excite.